un parcours en enfer suivi d'une résurrection, le mot n'est pas trop fort, et aujourd'hui une multiplicité d'interventions pour témoigner. Laurent Guay, bonjour.
Bonjour.
On peut dire qu'aujourd'hui vous êtes un vrai témoin et pèlerin d'espérance. C'est comme ça que vous ressentez votre vie d'aujourd'hui ?
Alors un témoin d'espérance, oui. Pèlerin, en plus cette année, bah oui, je pèlerine et j'essaye d'entraîner d'autres. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Troubadour d'espérance ». Alors là, je crois que toutes les attributs par rapport à l'espérance, on pourrait en faire pas mal. Mais c'est vrai que pèlerin d'espérance, ça me parle beaucoup, oui.
Et d'où l'idée de vous inviter dans cette émission « Pèlerin d'espérance ». Cette espérance, vous ne l'aviez pas forcément, elle n'était pas innée en vous, et votre parcours n'a pas été marqué que par des belles choses.
Ah oui, effectivement. Non, c'est vrai que je pourrais même parler de désespoir total. À un moment donné où j'ai sombré dans ce désespoir. Et c'est terrible quand on n'a plus aucun espoir et par surcroît, on n'a plus d'espérance. Mais pour moi, l'espérance, c'est très spirituel. Voilà, l'espoir est humain et on en a besoin parce qu'on a besoin d'espérer à de choses meilleures, mais l'espérance nous élève beaucoup plus haut. Je pense que moi j'aime bien faire la différence,
oui.
Et du coup j'étais pas du tout dans le spirituel, j'étais pas croyant et j'étais plutôt dans le monde des ténèbres et dans une véritable désespérance, oui.
Alors ce monde des ténèbres, si on en dit un petit peu, on ne va pas trop s'appesantir, mais c'est quand même bien aussi pour comprendre de où vous venez et pour admirer encore plus là où vous êtes aujourd'hui, enfin admirer ou être content de là où vous en êtes aujourd'hui. On revient un petit peu sur ce monde des ténèbres. Déjà, peut-être votre famille est une famille tout à fait aimante.
Oui,
tout
oui,
à
oui.
Fait, en fait, il n'y a rien à dire là.
Alors, l'environnement, sur le plan personnel, j'ai pas réussi vraiment à développer quand même une joie de vivre. Je manquais de rien, mais bon, mes parents étaient ouvriers. On vivait dans un environnement quand même un peu difficile, puisque j'ai grandi dans les quartiers durs au nord de Paris, dans les HLM. Mais c'est vrai que le climat à la maison n'était pas... j'ai pas été maltraité ou des choses comme ça. C'était plutôt... j'ai cru que j'étais nul, j'ai cru que j'étais bon à rien, que je valais rien. Et c'est vrai que aujourd'hui, je fais beaucoup de travail sur l'éducation. Et encore une fois, je jette pas la pierre à mes parents, mais j'ai été élevé un peu à la... pas à la dure, mais à la brute, un peu, dans le sens... mon père, pour nous secouer un peu, il nous disait « Vous ne ferez jamais rien de bon » ou des paroles comme ça, qui ont formaté mon petit cerveau d'enfant à croire que j'étais rien. Et ça ne m'a pas aidé. Et après, il y a l'environnement qui a fait que j'ai sombré dans les mauvaises fréquentations et dans la drogue, etc., etc.
Voilà, un peu de harcèlement en primaire,
oui,
c'est
bah
ça
là, oui. Alors là,
c'était un peu le déclencheur.
Comme j'étais un enfant plutôt hyper timide, voire même introverti, en plus, j'étais ce qu'on appelle dyslexique. Aujourd'hui, je suis auteur, on me demande d'écrire des livres, donc c'est quand même cette espérance qui permet de nous dépasser, surpasser. Mmh. Et donc, j'étais un enfant dans un mutisme total en primaire parce qu'on se moquait de moi. J'ai subi des choses très, très difficiles à vivre. Aujourd'hui, j'ai réglé toutes ces choses-là, mais l'humiliation, perte de dignité. Hein. Et du coup, j'étais dans un mutisme total. Et voilà, comme on parle d'espérance, aujourd'hui, je suis conférencier. Et vos auditeurs vont s'en apercevoir, je suis un bavard, je suis un passionné. C'est une belle revanche sur ma propre jeunesse.
Ouais. Parce que, effectivement, vous avez écrit, comme vous disiez, Laurent Guay, deux livres et un troisième est en préparation, si je peux annoncer ce scoop. Le premier livre, c'est Arraché à l'enfer, où vous expliquez tout votre parcours de drogue, de délinquance, de violence, de violence terrible, jusqu'à la prison. Et puis, un deuxième livre, Troubadour d'espérance. Vous avez trouvé l'espérance, mais elle est tombée sur vous, en fait, en gros, cette espérance.
Oui, je pense qu'on est porteurs tous de cette grâce, de cette vertu, puisqu'il s'agit de la vertu théologale. Souvent, on ne le sait pas, parce que, encore une fois, on est tellement enfermé, en tous les cas, mon cas, j'étais tellement enfermé, je dirais, dans une forteresse intérieure, qu'il était impossible pour moi de croire, qu'il était impossible pour moi d'espérer, il était impossible d'aimer. Je crois que c'est saint Augustin qui dit ça. Même dans une vie avec des situations horribles, il y a une inclinaison de l'âme qui nous élève à croire, à aimer et à espérer. Mais c'est vrai que je pense qu'on a au fond de nous quelque chose qui est endormi en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de témoins d'espérance. Et ces pèlerins d'espérance aujourd'hui, ce sont des témoins. Ils avancent sur ce chemin d'espérance. Et moi, je crois que là où naît l'espérance dans un cœur, c'est un miracle qui se produit. Et cette espérance, elle est née dans mon cœur et il y a eu un miracle sur ma vie. Et aujourd'hui, j'aime tellement cette vie parce que j'ai découvert cette espérance au travers d'un esprit de vie qui me donne l'envie de vivre et la joie de vivre surtout.
Et la volonté de partager cette joie.
Et exactement.
Et de transmettre cette espérance.
Pour moi,
cette
c'est très important parce que, encore une fois, on m'a aidé dans mon parcours. Alors, il a fallu tout un chemin, mais c'est un homme qui venait me visiter à l'hôpital, alors que j'étais très malade.
Je vous interromps juste, oui, Laurent, est-ce que vous pouvez... Non, mais revenir juste un tout petit peu en arrière, parce qu'il y a quand même eu une préparation à la visite de ce monsieur.
Ah oui, alors en prison, je situe les choses. Non-croyant, je pars quand même pour une sale histoire, et on m'apprend que j'ai le VIH. Donc à une époque où il n'y a aucun traitement, on est en 1987, je suis dans une cellule, et moi, ça y est, c'est terminé. Pour moi, il n'y a plus d'issue. Je me prépare un objet tranchant. Et en fait, pourquoi, j'en sais rien. Peut-être la grâce de mon baptême, alors qu'on ne m'a jamais parlé de Dieu. Hein. Je n'ai pas une famille pratiquante ni croyante. Ma mère croyait à toutes sortes de croyances. Mais en fait, moi, j'avais une peur terrible. Non pas de mourir, alors c'est totalement idiot de dire ça, mais de vivre. Mais en même temps, j'avais la dimension... Alors, ça va être incroyable... J'avais peur de me retrouver en enfer. En fait, comme si j'avais été possédé par la drogue, comme si j'ai été possédé par le mal. Et ça me terrorisait. Et c'est comme ça que je me suis adressé à Dieu. J'avais un objet tranchant dans la main, j'ai attendu que les détenus s'endorment, j'étais dans une cellule.
Vous étiez prêt à vous couper les veines.
Pour moi, c'était ouais. Vraiment... Il n'y avait plus d'issue. Et là, en fait, j'ai juste demandé à Dieu... Je ne sais pas s'il existait ou pas, mais j'ai dit, si tu es là, s'il y a quelqu'un, voilà, ouvre-moi la porte de ton paradis. Et là, en fait, c'est Dieu qui a ouvert la porte de mon cœur, surtout. Et là, je me suis mis à pleurer. Et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Une grande paix, comme une présence. Je n'ai rien vu avec mes yeux de chair, mais dans mon cœur, en tous les cas, dans mon être, ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais, c'est un visage. Et pour moi, l'espérance, c'est un visage. Et ce visage, pas n'importe quel visage, le visage du Christ. Alors, c'était un peu comme une ombre, hein, un peu. C'était pas un visage resplendissant, mais sur ce visage, en filigrane, deux mots, confiance, espérance. Et deux mots aujourd'hui, pratiquement 35 ans après, qui m'ont jamais lâché.
Et qui ont permis que vous fassiez bon accueil à ces visites, justement à l'hôpital, à celui qui, à ce moment-là, a été témoin d'espérance pour vous.
Exactement. Mais le problème, c'est qu'on est têtu. Et même si j'ai fait cette expérience, quand je suis ressorti de prison, j'avais pas, toutes les bonnes clés pour rester dans cette dimension spirituelle ou cette dimension d'avoir été sauvé par le Christ quand même. Alors il m'a fallu quand même 3 ans, 4 ans même, encore des conneries et retoucher à la drogue. Et je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital. Et effectivement, un homme qui venait me visiter tous les jours, un bénévole, et cet homme-là était porteur d'espérance pour moi. Au moment où là aussi, la médecine me disait qu'il me restait peu de temps à vivre.
Et, oui, vous étiez en fin de vie.
Bah exactement. Ah oui. Et cet homme-là a eu les mots justes. Je parle beaucoup de paroles de vie, c'est tellement important, ou un langage d'amour. Il a su me transmettre une dose d'amour qui m'a permis d'être ouvert. Alors c'est vrai que mon cœur était préparé par cette rencontre, il a été pour moi ce pèlerin d'espérance qui m'a conduit à avoir confiance en lui, de le suivre. Il m'a proposé de rentrer dans cette communauté aux Béatitudes qui accueillait des malades en soins palliatifs, en fin de vie, cancer phase terminale, sida phase terminale. Et je suis arrivé là-bas et je n'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. Et des frères et sœurs qui ont là aussi tellement pris soin de moi que ça a été la guérison. Et quand je dis la guérison, c'est pas une guérison miraculeuse comme on pourrait l'entendre, mais en fait c'est comme si Dieu m'avait permis de rester en vie en attendant qu'il y ait des traitements par rapport à la maladie du sida. Et j'ai été un des premiers à être suivi par des traitements avec des protocoles, et même les médecins alors, vous savez, quand les médecins parlent de miracle, mais en tout cas, ils m'ont dit que je pouvais avoir une espérance. Et là, il y a eu un volte-face sur ma vie, c'est-à-dire c'était terminé les conneries, c'était terminé. J'ai pu à ce moment-là désirer donner sens. Et je crois qu'on a besoin d'un idéal, on a besoin d'une raison d'être. Et pour moi, j'ai compris à ce moment-là que je pouvais être utile. Et être utile, c'était comme on m'avait aidé, de pouvoir aider les autres. Voilà. Donc il y a eu tout un parcours, tout un chemin. Entre temps, je me suis quand même marié avec une femme extraordinaire. On a eu deux enfants. Là, pour le coup, c'est aussi
des miracles.
Des miracles, parce que voilà. Mais voilà. Et aujourd'hui, moi, j'aime bien le dire. Les gens les plus heureux que j'ai rencontrés, c'est des gens qui étaient remplis d'espérance. C'est des gens qui ont des rêves, des rêves bien éveillés, c'est-à-dire des projets, des choses qui nous... Voilà. Et je crois que c'est ça, notre espérance sur cette terre, hein, c'est de croire que même si le monde va mal, le royaume, il va bien. Et je crois que nous sommes citoyens du ciel, représentants, ambassadeurs de ce royaume ici-bas. Et c'est ça pour moi le témoin d'espérance. En tous les cas, je le vis comme ça.
Et vous le vivez, mais vraiment au quotidien aussi, parce que vous allez rencontrer des jeunes, beaucoup, beaucoup de jeunes, mais des moins jeunes aussi, pour parler de votre parcours et puis de cette espérance que vous avez trouvée et que donc vous avez envie de partager aujourd'hui.
Exactement. Ça fait quand même 20 ans. Ça aussi, c'est incroyable. On a monté une association qui s'appelle Aidons-les à grandir. Et cette association permet aussi de travailler avec les parents. Mais pour les jeunes, c'est incroyable parce que même aujourd'hui, j'ai 60 ans, donc je rencontre des collégiens. Et ça matche encore.
Ils sont prêts à entendre votre discours empreint d'espérance ?
Je crois. Il y a une soif. Ils ont besoin d'authenticité, de vérité. Et avoir un langage d'amour pour nos jeunes, ils en ont tellement besoin.
Et ils sont prêts à l'entendre. C'est ça qui est magique, en fait.
Bien sûr.
Ça veut dire qu'il faut oser proposer cette espérance.
Ouais. Et puis, osons parler de Dieu.
Laurent Guay, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour ce témoignage d'espérance. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, Arraché à l'enfer et Troubadour d'espérance. Et puis, on peut guetter la sortie de votre prochain livre à l'automne.
Avec joie. Merci.